Réno Days, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Imo, Bâti Radio et Radio Territoria.
Ravi de vous retrouver sur les antennes de Radio Imo, Bâti Radio et Radio Territoria pour vous faire vivre cette deuxième journée du forum Réno Days depuis Paris Expo Porte de Versailles. Nous sommes au Hall 6. Toutes nos émissions sont disponibles en replay sur nos applications. Le fil rouge de ce forum, comment massifier une rénovation énergétique d'ampleur en France? Cette question, évidemment, on la pose à l'ensemble de nos invités. Nathalie Mougeot, bonjour.
Bonjour.
Responsable du département développement commercial, partenariat et prescription chez EDF. Merci de répondre gentiment à mes questions. La première d'entre elles, peut-être, pourquoi c'est important pour EDF, justement, d'être présent sur ce type d'événement?
Alors, parce que EDF est très impliqué sur tout ce qui est la décarbonation du bâtiment d'une manière générale et la décarbonation de l'économie de manière plus globale. Oui. Accompagner l'ensemble des acteurs sur la réduction de leurs factures énergétiques de manière à pouvoir répondre à l'ensemble des objectifs à la fois de décarbonation et de reste à vivre, je dirais, de chacun des Français dans leur logement aujourd'hui.
Les personnes qui viennent vous voir sur votre stand, c'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent?
On a énormément de questions en ce moment sur tout ce qui est les aides à la rénovation, notamment parce que EDF est le premier obligé de France et donc accompagne énormément à travers le dispositif des C2E. Mais nous accompagnons aussi sur de nombreuses solutions de sobriété à travers des programmes pour tout ce qui est logement collectif, par exemple sur les programmes Cube Logement qui incitent à l'efficacité, enfin à la sobriété énergétique en impliquant les locataires ou les copropriétaires dans cette démarche. C'est aussi de l'accompagnement avec les éco-gestes que l'on fait auprès des particuliers globalement. Et puis tout l'accompagnement sur les aides aussi ou les chèques énergie, enfin tout ce qui peut venir aider globalement à alléger la charge du coût énergétique des Français.
Et ça, c'est une vraie stratégie chez EDF?
C'est une vraie stratégie d'accompagner nos clients. Et à côté de ça, c'est leur parler aussi de tout ce qui peut se faire en matière d'efficacité énergétique et de décarbonation. Et donc, on le voit, les dispositifs sont nombreux, complexes. Donc, il y a besoin d'informations, d'explications, de simplifications. Et nos équipes, là, sont à disposition. Que ce soit pour les particuliers, l'avantage de ce salon, c'est qu'on a à la fois les équipes qui s'occupent des particuliers. Et moi, je suis plus spécifiquement sur le B2B. Donc, on s'occupe aussi de travailler avec les professionnels de l'immobilier, que ce soit les syndics, les bailleurs sociaux ou les acteurs du tertiaire, les gestionnaires de parcs tertiaires.
Et dans tous les cas, finalement, vous avez un rôle pédagogique qui est relativement important aussi?
Tout à fait. Il y a à la fois le rôle pédagogique, à la fois l'explication. Alors pédagogique, que ce soit sur les montages administratifs, financiers,
etc.,
complexes, mais aussi sur les technologies. Quelle nouvelle technologie, qu'est-ce qui se met en place? Et c'est vrai qu'à travers les liens que l'on a avec un certain nombre d'exposants, d'ailleurs qui sont ici, et à travers les équipes du bâtiment, de la FFB, de la CAPEB et autres, on met aussi en avant toutes les solutions d'isolation, etc. Donc on n'est pas uniquement sur les systèmes énergétiques, même si c'est un facteur aujourd'hui qui peut accélérer la décarbonation d'une part, parce que quand même ça joue énormément le fait de changer le système énergétique. Et aujourd'hui l'électrification est un véritable levier pour aller vers la décarbonation du bâtiment. Mais c'est aussi regarder tout ce qui peut être économie à côté avec des matériaux, enfin des bons matériaux et surtout une bonne pose. Ce que l'on vérifie notamment à travers les dispositifs de contrôle des C2E.
On plaide beaucoup quand même pour une simplification justement des différents dispositifs disponibles, le C2E, MaPrimeRénov, EcoPTZ. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout cela c'est un point bloquant majeur?
Déjà parce que les dispositifs, chaque dispositif déjà indépendamment, est très mouvant.
Si on regarde,
Des stop and go. Si on regarde sur MaPrimeRénov, ça a été plus de 15 modifications depuis le démarrage du dispositif.
Ça devient un flou artistique.
Il y a des arrêts qui ont été faits pour les particuliers. Par contre, ça a été poursuivi sur MaPrimeRénov CoPro. Sauf que les gens n'ont pas vu que c'était poursuivi sur MaPrimeRénov CoPro. Donc ça a mis un stop aussi sur une prime qui aurait pu être continue. Donc ça, c'est pour la partie MaPrimeRénov. On a sur les C2E. Je pense que les gens n'ont pas ça en tête, mais sur la cinquième période, c'est-à-dire les quatre dernières années, en moyenne, 2 arrêtés par mois. Donc, qui viennent changer les fiches. En 4 ans. Une sixième période qui doit s'appliquer à partir du 1er janvier 2026, pour lequel nous n'avons pas les textes, ni le niveau d'obligation, ni quoi que ce soit aujourd'hui de publier. Donc il y a des annonces qui sont faites à droite à gauche, mais voilà, des choses qui doivent s'enclencher. Donc, sauf que le temps de réflexion des travaux, c'est pas immédiat. Ça s'engage sur du 6 mois, 1 an, ouais. Voire 2 ans quand on est en copropriété. Donc il est un peu difficile de s'engager dans une démarche sans savoir quel dispositif sera mis en place. Alors, en plus de ça, des aides régionales qui peuvent arriver et puis repartir à peu près dans le même temps. Donc il y a ça. En plus, on a une complexité, je dirais, administrative qui est venue se mettre en place. Il y a ces deux œufs, il faut tout contrôler. Derrière, c'est les contrôles. Quand on veut aller sur de la rénovation d'ampleur pour la maison individuelle, ouais, globale, pour le collectif, on n'arrive même pas à avoir le même terme pour la même chose.
C'est vrai, je pourrais y voir clair.
Non, c'est juste l'anecdote. Mais,
Ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. donc, quand on veut aller sur ce type de rénovation, il faut, on est confronté à plein de choses. Il faut un audit. Par exemple, pour la copropriété, il faut l'audit amont. Audit amont qui ne correspond pas ni au DPE collectif qui a été imposé par les textes de loi pour cette copropriété, ni au DTG qui est imposé pour une partie des copropriétés, ni au plan pluriannuel de travaux, le PPT, qui a été aussi imposé. Donc on va revenir 3 fois en Assemblée Générale de copropriété pour dire une fois il faut voter le DPE, une fois il faut voter le PPT, une fois il faut voter le DTG, et quand ils arrivent pour vouloir faire une rénovation, là on est « Ah non, là il vous faut un audit qui n'est pas le même ». Donc c'est un peu ça. Soit on se dit il y a un outil global qui va servir finalement à faire à être un peu le juge arbitre. Donc on dit le DPE collectif est obligatoire. Si le DPE il est en A, B, C, vous avez juste à faire votre PPT. Voilà. Si par contre il est en E, F, G, vous savez que les bâtiments doivent être rénovés, donc vous passez directement sur l'audit qui intégrera le DTG. C'est des simplifications, mais qui permettrait à tous les Français de mieux comprendre ce qu'ils ont à faire.
Qui sont nécessaires. Comment EDF aujourd'hui joue un rôle de médiateur, d'un côté entre les ménages, les collectivités, les dispositifs publics, pour essayer justement, quelque part, de fluidifier le parcours des bénéficiaires?
Alors, comme je le dis, on fait beaucoup d'informations, que ce soit sur les salons, les congrès, les stands, sur le site internet aussi. On travaille avec l'ensemble des fédérations professionnelles, en tout cas moi pour le B2B, pour essayer de trouver ces dispositifs et faire des propositions aux élus sur des simplifications de ces dispositifs.
Et les élus, vous adressez à qui? Il n'y a plus personne là.
C'est un peu le problème. C'est pour ça qu'en attendant, on travaille en chambre avec les fédérations. Ouais. Non, on travaille. Les députés, pour le moment, sont encore là, et les sénateurs sont encore là. Donc, il y a toujours possibilité d'aller les voir. Et puis, avec les grands organismes d'État comme le CSTB, le CEREMA, etc., pour essayer de trouver des outils simples et globaux qui permettront de fluidifier. D'autre part, on travaille avec un certain nombre d'acteurs, je dirais, du microcosme de la rénovation, pour essayer de travailler des montages un peu ce qu'on appelle ensemblés. Donc, arriver avec une offre globale où ça va partir de l'audit, enfin, post-audit, pouvoir choisir un programme global avec quelqu'un qui, avec un engagement, je dirais, d'un groupement, qui se chargera du financement, d'aller chercher toutes les aides, etc. Y compris C2E, MPR, enfin. Et aussi d'avoir les bons acteurs pour faire la rénovation et du bâti et des systèmes, voire avec un contrat de performance derrière pour s'engager sur la réalisation, donc avec un exploitant qui participera dès le départ, de manière à ce qu'il y ait un réel engagement sur la réalité des économies obtenues in fine.
Oui, puis ça participe à la simplification que vous recommandiez tout à l'heure. C'est quoi les solutions techno-décarbonées qui vous paraissent aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, incontournables justement dans le domaine de la rénovation énergétique?
Alors, selon si on est en individuel ou en collectif.
Oui, parce que ça peut changer, oui.
Voilà. Je dirais sur la maison individuelle, aujourd'hui, on le voit, la pompe à chaleur est une vraie, vraie solution. Alors, elle permet de répondre à un certain nombre de problématiques, parce que il y a un rapport de l'ADEME, d'ailleurs, qui est venu conforter ça, qui est sorti hier matin, et qui lève un peu toutes les idées reçues, les fausses idées reçues sur la pompe à chaleur, et qui montre que c'est vraiment une technologie performante, efficace, et qui permet permettrait de répondre à un certain nombre d'enjeux de notre pays, à savoir, ça permet à la fois de passer sur de l'énergie décarbonée, puisque si on est en électricité, en France, l'électricité est décarbonée à 98%, elle est aujourd'hui largement disponible et finalement peu chère, contrairement à ce que on se dit, oui, la facture a augmenté, mais il faut savoir qu'on est le deuxième pays le moins cher d'Europe en électricité, donc faut quand même aussi relativiser. Donc ça permet de répondre aux objectifs aussi d'indépendance énergétique de la France, et on le voit dans le contexte actuel, c'est quand même non négligeable. Voilà. Et elle a cette faculté que pour 1 kWh d'électricité consommée, c'est 4 kWh qui sont restitués dans le logement. Donc il y a 3 kWh qui proviennent finalement de la captation d'énergie dans l'air, dans l'eau, enfin selon la technologie. Donc en fait, pour 1 kWh acheté, c'est 4 restitués. Donc même si le kilowattheure électrique est un peu plus cher que le gaz aujourd'hui, on en consomme qu'un pour 4. Donc c'est une vraie technologie. Alors, pour la maison individuelle, vraiment, ça se fait très bien en remplacement de n'importe quel système, chaudière fuel, etc. Et puis, il y a les paquets RER aussi, qui permettent aussi d'apporter, finalement, pour ceux qui sont sur des systèmes individualisés en pièce par pièce, ça permet aussi d'apporter le rafraîchissement d'été. Et on le voit, l'adaptation au changement climatique est aussi une vraie problématique. Et si chacun mettait son petit climatiseur à roulette, qui est extrêmement énergivore, on augmenterait les factures d'énergie énormément. Donc passer sur ces systèmes, voilà, paquets RER, c'est aussi une bonne solution. En collectif, c'est vrai que la pompe à chaleur est moins connue. Collectif, si vous avez à proximité un réseau de chaleur, c'est ce qu'il faut utiliser en priorité, parce que ça permet de faire appel à des énergies renouvelables comme la géothermie, comme la thalassothermie si vous êtes en bord de mer, la biomasse, etc. Donc le réseau de chaleur est vraiment une bonne solution. Par contre, les solutions PAC en logement collectif se développent aussi énormément. Dans le neuf, l'année dernière, c'est 42% des logements collectifs neufs qui sont équipés en pompe à chaleur. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, voilà, ce n'est plus... on pouvait avoir des craintes que ce soit une nouvelle technologie. Il suffit de regarder les pays nordiques. Suède, Danemark, etc. Ils l'ont complètement adopté.
En collectif.
En collectif.
Ah ouais.
Ils sont sortis complètement du gaz. Et que par ces deux biais, réseau de chaleur et pompe à chaleur. Quand après, on a des idées reçues qui disent la PAC ne fonctionne pas par moins 7, il faudrait m'expliquer pourquoi elle fonctionne en Suède et pas en France, quoi. Typiquement. Ouais. Donc voilà, il y a des vieux freins qui restent. Après, il est vrai qu'il faut continuer à former les filières qui n'étaient pas suffisamment formées en France. Mais là, beaucoup de filières aujourd'hui ont évolué sur ce sujet. Et notamment, nous, dans le groupe EDF, l'ensemble de nos filiales qui sont en installation, exploitation, que ce soit Easy by EDF, Dalkia et Easy Confort, se forment depuis des années déjà sur ces technologies et donc sont parfaitement aujourd'hui en capacité de répondre aux demandes.
Et c'est 42%, vous disiez, donc
dans le neuf.
Dans le neuf.
Dans le neuf collectif. Ouais. 90% en maison individuelle groupée et 85% en maison individuelle isolée.
Oui, donc ça a largement progressé, quoi.
Ça a largement progressé.
EDF travaille avec des prescripteurs, des promoteurs, des maîtres d'ouvrage. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret comme ça de partenariat réussi en matière de rénovation énergétique? J'imagine qu'il y en a des milliers à donner, mais...
On en a des milliers et on accompagne notamment énormément les bailleurs sociaux sur ces sujets-là, donc avec des belles réussites. Je pourrais citer par exemple l'OPH de Coulommiers qui a fait une superbe opération de rénovation et qui a l'ambition d'être d'ici 2030 le premier OPH 100% décarboné sur son parc. Donc ils ont raccordé, ils sont passés de chauffage électrique indépendant à raccordement réseau de chaleur sur un réseau de chaleur géothermique. Tout en faisant l'isolation, etc. Donc, que nous les avons accompagnés à la fois par des études, avec Dalkia sur la partie réseau de chaleur et avec les C2E côté EDF. Et ils ont réussi à baisser la consommation de l'ordre de 70% sur leur parc. Et avec un niveau de confort hyper apprécié, et il n'y a plus aucun logement vacant dans les 400 logements qui ont été rénovés, et ils sont en train de le poursuivre sur le reste de leur parc pour avoir 100% du parc en 2030. Voilà. Donc c'est un exemple.
Un exemple parmi d'autres. Avec des feedbacks qui pour le coup sont vraiment parlants, quoi.
Voilà. Sur la sobriété, on peut citer aussi les exemples avec Cube Logement où on était il y a deux semaines à 452 bâtiments qui avaient adhéré au dispositif Cube Logement. Et avec les premiers résultats qui sont tombés, où les économies sans investissement, par l'engagement, je dirais, des copropriétaires, ou des locataires. Et là, l'économie constatée entre mai et aujourd'hui est déjà de plus de 11% pour certains.
Ouais, c'est pas négligeable.
C'est non négligeable.
Selon vous, c'est comment les partenariats publics-privés peuvent justement participer à contribuer à cette massification que l'on recherche au niveau de la rénovation énergétique d'ampleur ?
Par le fait que le privé peut sans doute apporter des outils dont ne dispose pas encore aujourd'hui la force publique. Je vois, on a développé à destination des bailleurs sociaux, on est en train de regarder pour les temps, une offre des Carbon Experts qui permet d'aller faire une analyse du parc et de cibler, elle permet de proposer jusqu'à 350 bouquets de travaux et d'affiner en fonction de la volonté du bailleur d'aller sur un budget précis ou sur une étiquette précise ou etc. Donc voilà, ça permet aussi de leur donner des outils leur permettant de faire leur plan de décarbonation. Idem pour les particuliers avec ce que propose Easy by EDF, où ils peuvent les accompagner complètement sur leur projet de rénovation globale en travaillant avec des AMO aussi qui vont pouvoir les accompagner pour les aides, etc. Et donc, mais en utilisant ce même type d'outils qui a été développé par la R&D d'EDF pour leur faire un panel des solutions et leur montrer entre le monogeste, le multigeste, finalement, on le voit parfois faire une opération de rénovation globale, d'ampleur pour la maison individuelle, permet d'avoir un reste à charge moindre que de faire du monogeste. Et avec un gain économique beaucoup plus important et puis surtout une revalorisation du bien. La valeur faite du bien qui on le voit, et c'est important quand on regarde les chiffres de la chambre des notaires, on voit que tous les bâtiments FG, enfin, et puis ça commence à arriver sur les E, ont perdu énormément de leur valeur aujourd'hui.
Je ne sais pas ce que disent vos clients, mais est-ce qu'on en fait assez finalement pour les aider au niveau du reste à charge, puisqu'on en parlait à l'instant?
Il y a énormément de systèmes qui se développent. Alors, on le voit avec les systèmes bancaires aussi qui rentrent aussi avec la taxonomie européenne dans ces finances vertes et qui va chercher aussi le préfinancement des subventions, parce qu'on a aussi ce problème d'avance de trésorerie.
Évidemment.
Donc voilà, il y a des solutions qui sont en train de se trouver et sur lesquelles on travaille aussi avec les réseaux bancaires.
Vous êtes en partenariat avec eux aussi, j'imagine.
Voilà, on a même une filiale d'Homofinance qui fait le prêt collectif et les éco-PTZ aux copropriétés. Donc effectivement, on avance sur ces sujets-là. Alors ça se fait petit à petit avec ce que nous permet la législation et puis avec les blocages institutionnels que l'on connaît aujourd'hui. Donc ce qui rend un peu les choses un peu plus complexes. Mais effectivement, il y a des solutions. Après, ça peut se faire aussi, on le voit là. Certains bailleurs ont mis à contribution les locataires aussi en leur demandant une hausse minimale du loyer pour venir contribuer un petit peu. Mais après, cette hausse minimale, elle est de 9 euros par mois. Mais 93% des locataires ont validé leur intégration dans le projet. Et à côté de ça, c'est une baisse de l'ordre de 50 euros par mois qu'ils font de réduction de leur facture énergétique. Donc ils se trouvent finalement, et en plus, ils sont impliqués dans la démarche. Donc ils appliquent en plus de l'efficacité énergétique la sobriété. Donc,
c'est gagnant-gagnant. Voilà. Ce sera ma toute dernière question rapidement. Quels objectifs EDF se fixe à l'horizon 2030 pour la transition énergétique justement dans le bâtiment? Rapidement.
C'est déjà de répondre aux objectifs, je dirais, globaux de la France, c'est-à-dire suivre les trajectoires qui ont été données à travers le Fit for 55, à travers les lois climat et résilience, etc. Donc c'est vraiment aller sur la décarbonation du bâtiment, sur l'électrification des usages, pour accélérer. Aujourd'hui, on ne va pas suffisamment vite sur ces domaines-là, alors que, je vous le disais, l'énergie est disponible. Donc souvent, ça fait peur. On peut se dire, les réseaux, est-ce que les réseaux vont tenir? Ça fait peur. Les réseaux sont prêts. Les plans sont lancés depuis 2015. Si vous lisez les rapports RTE, les réseaux ont été renforcés. Ils ont été renforcés non pas pour pouvoir desservir la totalité, mais pour pouvoir absorber les énergies renouvelables intermittentes. Donc les capacités sont là, enfin, l'énergie est disponible, il faut ce basculement, il faut cette prise de conscience, il faut cette information pour qu'on puisse très rapidement tenir les objectifs et ce critère quand même de moins 60% de CO2 dans le logement entre 2022 et 2030. Moins 60%. On est vraiment sur l'obligation d'accélérer cette décarbonation et de tourner vers des énergies qui sont disponibles.
Un grand merci, Nathalie Mougeot, d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir suivis. Cette émission, vous la retrouvez donc en intégralité en replay sur l'ensemble de nos antennes. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour une prochaine émission. À tout de suite.
Réno Days, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Immo, Bâti Radio et Radio Territoria.